Merci d'écouter France Culture. Il est tout juste 15h et c'est l'heure de retrouver Marie Richeu pour le Book Club. Bonjour Marie.
Salut Tiffaine.
Je vous retrouve demain.
Exactement, merci beaucoup. Et en attendant, je passe une petite annonce à nos auditeurs et auditrices. On peut se retrouver pour un Book Club enregistré en public. C'est ce dimanche après-midi à 15h30 au Centre Pompidou à Paris. Vous pouvez venir passer l'après-midi avec nous. D'ailleurs, venir un peu plus tôt parce qu'il y aura plein d'autres émissions de la chaîne. Mais tout de suite, place à notre invité Édouard Louis.
Bonjour le Book Club, bonjour Édouard Louis. Édouard, je vous remercie pour ce livre, Monique s'évade, qui m'a touchée par la tendresse infinie qu'il dégage. Monique, votre mère, s'était métamorphosée, ce que vous racontiez dans un précédent ouvrage. Et là, elle s'évade, elle se libère.
France Culture, le Book Club, Marie Richeu.
Tout faire pour l'aider s'imposait comme un impératif et cet impératif me poussait au bord des larmes. Un jeune homme est au téléphone avec sa mère, il est à Athènes, elle est à Paris et elle s'enfuit en direct d'une vie qui la tenait de nouveau prisonnière. Elle quitte un homme qui boit, la malmène et l'enferme. Elle recommence avec courage une tranche de vie nouvelle. C'est cette évasion au bout du fil que raconte le nouveau livre d'Édouard Louis. Il est l'invité de votre book club cet après-midi. Vers 15h50, comme chaque lundi, nous retrouvons Emmanuel Laurentin. Il choisit pour nous un livre en fonction de l'actualité. Aujourd'hui, c'est une tribune consacrée à la Nouvelle-Calédonie, parue dans le journal Le Monde et signée Éric Vuillard, qui lui fait rouvrir un court texte de ce dernier. Et en toute fin d'émission, on cherche toujours de la musique dans les livres et on en trouve grâce à vous et au grand jeu des pages musicales. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Quelle bonne nouvelle! Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Édouard Louis.
Bonjour.
Monique s'évade, c'est le titre de votre nouveau livre qui est apparu aux éditions du Seuil. Soyez le bienvenu dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir. Nos auditrices et auditeurs ont peut-être lu précédemment, je fais une courte liste non exhaustive, En finir avec Eddie Bellegueule, l'histoire de la violence, combat et métamorphose d'une femme, Qui a tué mon père, tous ces textes parus également au Seuil. Ici, tout commence par un questionnaire lecture. On fait le portrait de nos invités en tant qu'ils ont été peut-être façonnés par leur rencontre avec des livres. Est-ce que vous vous souvenez quand, quelle année, avec qui, dans quel paysage, si c'est intéressant ou notable, vous avez appris à lire, Édouard Louis?
J'ai appris à lire, évidemment, à l'école, comme beaucoup de gens. Je dois dire, c'est quelque chose que j'ai caché longtemps parce que j'en avais presque honte, mais avec une relative facilité. Et on m'a fait sauter une classe à l'époque, en CP, je crois, parce que je savais lire et que j'avais trouvé, je sais pas, dans la lecture, dans la narration, dans les histoires, quelque chose qui justement me permettrait peut-être de m'évader de quelque chose, d'une situation dans laquelle j'étais déjà pas bien dans mon enfance, je me sentais déjà pas fait pour mon enfance, et je crois que je cherchais des moyens de m'évader à tout prix, et que je les trouvais très vite là-dedans, sans peut-être en avoir totalement conscience.
Il y a quoi comme indice pour un enfant, parce que c'est une équation qui pourrait paraître comme ça, dit à l'âge adulte, bien des années plus tard, évidente, les livres, l'évasion, mais en fait... Si on essaye de savoir ce qui se passe potentiellement dans la tête d'un enfant, comment ça peut se soupçonner ça? Comment ça peut se soupçonner que dans la lecture, il y a un moyen de fuir une condition?
Oui, c'est pour ça que je disais juste avant que c'est une histoire dont j'ai presque honte, que j'ai beaucoup de difficultés à raconter cette rencontre très rapide, très jeune, très tôt avec la lecture, avec la narration, avec les livres, parce que je trouve qu'il y a justement une forme de, je dirais presque de vulgarité dans la manière dont les écrivains racontent ces histoires. C'est une histoire qu'on a déjà tellement entendue. J'ai été frappé par les mots dans mon enfance, par la rencontre avec les livres, et il y a même presque quelque chose de violent dans cette narration, puisque les écrivains ou les écrivaines, quand ils ou elles racontent une histoire comme ça, font un peu comme s'ils avaient été les élus. Mmh. Voilà. J'ai été élu tout de suite, une forme d'élection, comme le Messie, comme le personnage de Matrix, comme une sorte de prophète, comme ça. Et je trouve qu'il y a une forme de manière de mettre la distance avec les autres. Moi, je suis l'élu et vous ne l'êtes pas. Et c'est pour ça que, alors même que cette rencontre s'est produite rapidement pour moi avec les mots, j'ai j'ai pas voulu le raconter. J'ai été terrifié à l'idée de participer à la vulgarité.
Mais parce que ça crée une séparation de raconter ça.
Oui, exactement. Ça met un écart avec les autres. J'ai quelque chose que vous n'avez pas, et en plus ce quelque chose vous ne l'aurez pas puisque c'est une grâce qui m'a touché à la naissance. Et donc j'ai préféré pendant des années ne pas raconter ça, le taire. Et aujourd'hui, je cherche au contraire des manières de les raconter. Et je crois que ça a été pour moi très lié à mon expérience au fond de classe et mon expérience sexuelle, qui fait que très vite dans mon enfance, je l'ai raconté dans mes livres, j'ai été identifié comme gay. On m'a à l'école mis à l'écart, on m'a traité de pédé, de tapette. J'avais pas d'amis à l'école, j'avais des difficultés avec mes parents, et donc j'ai vécu dans une forme d'expérience, de vie, de quotidien violent immédiatement. Et je crois que l'idée de la narration s'est tout de suite imposée à moi comme une manière de survivre. Raconter la violence, trouver dans les mots, dans l'histoire, quelque chose qui ferait que je ne suffoquerais pas de cette violence, mais que j'en serais le maître. Et vous savez, il y a cette idée, à un niveau évidemment beaucoup plus violent et incomparablement plus violent, de Primo Levi, qui a survécu au camp de concentration à Auschwitz, qui l'a raconté dans ses livres. Et Primo Levi dit... Je n'ai pas survécu pour raconter ensuite, mais c'est parce que je devais raconter que j'ai survécu. Et au fond, la narration, la possibilité du témoignage, la possibilité de raconter a précédé la survie et peut-être l'a rendue possible. Et encore une fois, à un niveau incomparablement moins violent, c'est, j'ai l'impression, la même structure qui s'est jouée en moi. Je suffoquais à l'intérieur de mon enfance, je détestais mon enfance et quelque chose dans mon corps... qui est presque mystérieux, avait compris que peut-être raconter, c'était survivre, et que j'allais pas survivre pour raconter ensuite, mais parce que je savais que si je racontais, je survivrais, il fallait que je raconte.
Ou même si j'entends bien ce que vous dites là de si puissant, Édouard-Louis, c'est parce que vous étiez déjà en train de raconter, je reprends le mot que vous avez répété plusieurs fois, à savoir la narration, parce que c'était déjà en train de se produire dans votre tête, que vous surviviez. En fait, le fait que vous utilisiez le mot narration, j'entends la puissance du verbe à tenir les choses ensemble quand elles sont écartelées par la violence, quand elles sont propulsées, quand elles sont morcelées par la violence, quelle qu'elle soit. La narration, vous utilisez ce mot-là, c'est tenir les choses ensemble pour les dire ensemble. C'est le geste inverse de l'explosion, finalement.
Exactement. La violence, par définition, elle nous morcelle, elle s'abat sur nous, elle produit une incohérence de l'être, des sentiments, on se sent perdu, on sait plus qui on est, au moment où on est insulté, au moment où on est la victime d'un verdict négatif.
On est dissocié.
On est dissocié. Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas? On nous dit, tu n'es qu'un PD, tu n'es que ça, tu n'as le droit d'être que ça, tu ne peux pas être autre chose. On se dit, est-ce que je suis ça? Est-ce que je corresponds à ça? Est-ce que j'ai envie d'être que ça?
Et
qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on vous dit ça dans l'enfance, tout comme on peut vous dire, tu n'es qu'un sale juif, tu n'es qu'un sale arabe, tu n'es qu'une femme, reste à ta place. Et au fond, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et surtout, évidemment, ces verdicts s'accompagnent d'une perte de puissance sur sa vie, puisque à ce moment-là, qu'est-ce que c'est l'insulte? C'est être raconté par les autres. C'est être raconté par les autres. Et la narration, c'est une forme de vengeance ultime contre ce phénomène, puisqu'on va se mettre à raconter sa propre histoire tout à coup et à reprendre le contrôle dessus. Quitte à reprendre cette insulte qui nous était tombée dessus, comme l'a fait Jean Genet, quand il disait, voilà, on m'a dit que je n'étais qu'un PD, qu'un voleur, et donc je ne serai qu'un PD.
Et comme l'ont fait les Noirs américains, en reprenant ce qu'on appelle le stigmate et en le travaillant autrement dans la littérature ou dans la musique.
Exactement. Et d'ailleurs, le monde social est toujours une guerre de narration, puisque c'est intéressant la manière, je disais, de Jean Genet, à qui on a dit, tu n'es qu'un PD, un voleur, et qui a dit, alors je ne serai que cela. Et c'est tout ce qui se passe toujours au quotidien, c'est-à-dire, le monde vous assaille de verdicts, tu n'es qu'un PD, tu n'es qu'une femme, tu n'es qu'un musulman. Et à partir du moment où les gens se réapproprient ça, ça devient insupportable. Donc si vous dites oui, je ne suis qu'un PD, on vous dira ah mais tu es communautariste, tu es séparatiste, tu te sépares du monde, alors que cette même société a passé son temps à vous dire tu n'es que ça. Et donc au fond, la question c'est pas qu'est-ce qu'on est ou qu'est-ce qu'on n'est pas, c'est qui a le droit à la parole, qui a le droit de monologue sur l'autre. La société a le droit de vous dire tu n'es qu'une femme, mais si vous dites ben alors d'accord, je ne suis qu'une femme, je suis féministe, je vais vous dire ce que c'est, je ne vais parler que de ça, on va dire ah mais tu t'enfermes, tu es réductionniste, tu fermes les portes. Et qui a droit à la parole? Et ça, c'est une question de narration et c'est une question hautement politique.
Donc, sans faire de cette rencontre avec les mots et avec les livres et avec la lecture, Édouard Louis, à un endroit d'élection qui vous séparait du monde, mais plutôt témoigner de ce que ça a eu lieu et de ce qu'en fait ça arrive à beaucoup d'enfants qui ont ou non le loisir de le raconter ensuite, mais des enfants qui sont frappés par le miracle des mots. En fait, c'est une expérience qui est probablement plus commune que ce qu'on croit.
Absolument.
Comment est-ce qu'on vous retrouve, adolescent, un peu plus tard, ou quand vous voulez, dans votre lien à la lecture? Vous devenez quoi comme lecteur?
Eh bien, c'est une histoire encore de sociologique et une histoire presque de chorégraphie sociologique, c'est-à-dire que je grandis dans mon enfance et cette mise à l'écart continue. Je suis toujours le PD, je suis toujours le bizarre, je suis toujours celui qui est pas masculin. Et l'espace public, c'est-à-dire les rues du village dans lequel j'ai grandi, les garçons qui jouent dans la rue, qui jouent au football, qui vont à l'arrêt de bus du village, qui traînent pendant des heures, et un espace dans lequel j'ai pas ma place, je suis pas à l'aise. Et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là, 10, 11, 12, 13 ans? Je vais aller me réfugier dans la bibliothèque du village, où une bibliothécaire qui s'appelle Stéphanie Morel va devenir mon amie, que je vais voir tous les après-midi, tous les soirs, pour essayer d'échapper à la rue. Et au fond, encore une fois, c'était pas comme une rencontre magique avec les mots, c'est que l'espace du livre et l'espace symbolique du livre m'autorisaient un espace de survie. Parce que, à la bibliothèque, tout ce qui était considéré comme négatif dans la rue était considéré comme positif, ouais. Justement. Tout le capital négatif devenait un capital positif. Dans la rue, il fallait être un dur, il fallait être actif, il fallait être mobile, il fallait être agressif, il fallait jouer, il fallait être plus fort que les autres, il fallait être bruyant, il fallait être un vrai garçon. À la bibliothèque, tout ce qu'on me reprochait au quotidien, le calme, la petite voix, la délicatesse, tout ça était tout à coup positif. Et j'ai trouvé à l'intérieur de l'espace de la bibliothèque un espace dans lequel mon corps était possible. J'avais le droit d'avoir ce corps. Et au fond, je me souviens que c'était une époque à laquelle je lisais presque pas, je lisais très peu parce que j'évoluais dans un monde dans lequel on lisait pas, ma famille lisait pas, mes parents lisaient pas, mon père considérait que les livres étaient quelque chose d'efféminé, de féminin. Et avant même la rencontre avec vraiment les livres, la lecture, même si je savais lire, il y a eu quelque chose comme justement une sociologie chorégraphique, les mouvements de mon corps était autorisé à l'intérieur de cet espace. Et comme vous dites, c'est encore une fois pas une histoire d'enfant élu, c'est une histoire du monde social comme une mosaïque d'espaces à l'intérieur desquels certains espaces, certains corps sont autorisés, certains corps sont détruits. Et en fait, c'est quelque chose qui se reproduit beaucoup. Moi, quand je vais présenter mes livres, j'entends des gens qui me disent, ben, moi, j'avais un corps non conforme. Parce que j'étais gay, parce que j'étais grosse, parce que j'étais pas comme le monde voulait que je sois. Et l'espace de la bibliothèque, avant même que je connaisse la littérature, ça a été l'espace à l'intérieur duquel je me suis réfugié. Et ça a été mon cas.
Alors quand vous, en plus d'avoir trouvé un espace où votre corps devenait possible, devenait vivable, est-ce que c'est une porte d'entrée vers la littérature ou c'est juste une porte d'entrée vers une vie vivable ?
Non, c'est ça, c'est que par accident, puisqu'il était question de la survie de mon corps et qu'il fallait le préserver de la violence, je me suis retrouvé dans cet espace entouré par les livres avec cette bibliothécaire, structure que j'ai reproduite ensuite au collège, donc que je faisais quelque chose que je faisais dans le village, mais que je faisais au collège aussi, puisque comme on m'agressait dans la cour de l'école, j'allais au CDI pendant la récréation, et à force d'être au contact de ces livres, il a bien fallu finir par en lire. Et j'ai commencé à ce moment-là à lire des livres de littérature d'adolescence, de littérature d'enfance. Presque toujours des histoires d'enfants ostracisés, d'enfants mis sur le côté. Des livres de Mario de Muraille, je me souviens, qui me fascinaient. Harry Potter, évidemment, alors là, c'était plus que de la fascination. C'est quelque chose que je pouvais lire 8, 9 fois dans l'espace du même mois, que je relisais à chaque
fois. En y trouvant quoi dans Harry Potter?
Ben, je trouvais l'histoire de quelqu'un qui sentait qu'il appartenait pas à l'endroit où il était. Sa vie était ailleurs. Il atterrit quand Harry Potter commence comme ça. Harry Potter est dans une famille qui est en fait sa famille adoptive, mais qui est la famille avec laquelle il vit. Et Harry Potter sent qu'il appartient à quelque chose d'autre. Et surtout, il se rend compte qu'on lui a menti sur son histoire. Que les gens avec qui il est, tous ces gens dont il est entouré, son oncle, sa tante avec qui il grandit, Eh bien, tout ça, c'est un mensonge. C'est pas son monde. Son monde est ailleurs. Et moi, comme enfant gay, j'avais ce rêve que mon monde était ailleurs, qu'on m'avait menti, que mon appartenance n'était pas mon père ou ma mère ou mes frères et sœurs, que, avec lesquels je m'entendais pas, qui me reprochaient mon corps, justement, qui me reprochaient de pas être ce garçon masculin. Je me disais, moi aussi, mon monde est ailleurs. Et ce monde, je dois aller le trouver. Et c'est pareil, dans Harry Potter, il y a eu quelque chose... Encore une fois, de survie. Pour moi, la littérature, ça n'a jamais été autre chose que la survie.
Même fait. Plus tard, quand on se déplace dans votre parcours de lecteur, Édouard Louis, et qu'on vous retrouve plus tard, c'est toujours ce motif-là ?
Toujours. Toujours ce motif de
et
la survie.
Et vous pensez à quelle lecture très importante au début de votre vie adulte, par exemple ?
Toutes les littératures de la survie, à tous les niveaux, sur les niveaux de classe, du racisme, de la... Je pense à Toni Morrison, je pense à Imre Kertész, je pense à Didier Ribon, je pense à Svetlana Alexievitch, je pense à tous les grands auteurs, à toutes les grandes écrivaines qui ont utilisé la littérature comme une manière de se saisir de la violence et de la raconter pour produire un écart par rapport à cette violence, justement. Se mettre à la maîtriser. Qu'est-ce qu'on fait d'un corps violenté tout de suite? C'est vrai que...
C'était au cœur de vos lectures.
Ça a été au cœur de mes lectures et encore aujourd'hui. J'ai presque du mal avec les belles histoires.
Oui, j'allais dire, votre livre, Monique Sévade, trouve une forme de très grande lumière à la fin, de joie, voire de célébration. Est-ce qu'il y a sur votre, je sais pas, votre table de chevet des livres de cet acabit-là qui sont portés par un... C'est pas dire qu'il n'y a pas de joie ni d'élan vital dans tous les textes que vous avez cités là, au contraire, je pense qu'ils sont très travaillés par ça.
Bien sûr.
Mais disons des textes qui ne seraient que portés par la joie, par la lumière.
Non, je sais pas.
Ça existe. À coup sûr, est-ce que ça, en le disant, je me disais, est-ce que ça existe?
Je sais pas, non. C'est vrai que, non, je, même dans les textes les plus lumineux ou les textes de désir, par exemple, Passion simple d'Annie Ernaux, qui est un texte qui m'a beaucoup marqué, qui est un texte de désir pur d'une femme qui désire un homme, qui l'attend. Même à l'intérieur de ça, il y a quelque chose comme, un diagnostic du monde de qu'est-ce que c'est que d'être une femme et d'être réduite à l'attente, ce que j'ai raconté dans Monique Sévade aussi à propos de ma mère. Il y a une très belle phrase de Pierre Bourdieu qui dit « Le monde social, c'est une question de tempo. La domination, c'est une question de tempo. La domination, pour ma mère, c'était une question de tempo. C'était faire la cuisine, attendre que mon père rentre à la maison. On savait jamais quand mon père allait rentrer. »
Maîtrise des horloges, vous écrivez à propos de votre père.
Exactement. Il partait avec ses copains, il allait au café, il allait dépenser les aides sociales qu'on avait au café. Et puis ma mère savait pas quand il allait rentrer. Il fallait qu'on l'attende pour manger, sinon il se mettait à hurler en disant « Quoi, on m'a pas attendu ?» Mais on savait jamais quand ça arriverait. Et il y avait une forme de domination par le temps. Et donc pour en revenir à Annie Ernaux, même dans une histoire de désir fou, d'amour fou, il y a quelque chose comme un diagnostic de ce que c'est que d'être une femme, ce
qui
que
attend.
C'est de qui attend, qui n'attend pas, qui maîtrise les autres. Et au fond, voilà, c'est ce que peut faire aussi, j'espère, la grande littérature, c'est que même quand elle raconte quelque chose d'une beauté totale, comme Marguerite Duras dans L'Amant, par exemple, qui est une autre histoire d'amour, il y a toujours quelque chose qui va au-delà de cet amour et qui raconte le monde derrière l'amour. Et donc, dans Marguerite Duras, le colonialisme, la question des Français qui sont dans les territoires colonisés, qui ont un privilège, un pouvoir sur les personnes dans le sud-est asiatique, il y a toujours quelque chose qui est raconté. Et c'est peut-être comme ça que l'amour est bien raconté, parce qu'il n'est jamais pur, il n'est jamais parfaitement horizontal.
Vous dites avoir grandi dans une maison où il n'y avait pas de livres et où on lisait peu. Il y a quelques bribes d'images d'un appartement parisien où vous passez du temps. Édouard Louis, dans votre dernier livre, Monique Sévade, et on voit apparaître des livres. Est-ce que vous vivez aujourd'hui parmi les livres? Et c'est quoi avoir un appartement où il y a des livres dans des bibliothèques?
Oui, c'est vrai. Ça aussi, j'ai beaucoup de mal à le raconter parce que ça me semble presque trop raconté. Mais c'est vrai que je vis avec ces livres et beaucoup de livres. Je suis entouré de livres et surtout, alors ça, je pense que c'est aussi un peu un syndrome d'enfant de pauvre, c'est que je me dis toujours un jour je vais rechuter, c'est-à-dire je vais Un jour, j'irai, je peux pas me défaire de cette idée. Un jour, j'irai à l'usine comme mon père, j'irai à l'usine comme mon oncle. Un jour, tout va s'effondrer. Un jour, ça marchera plus, j'écrirai plus, on lira plus mes livres. Et je connaîtrai le destin que j'étais conduit, destiné à connaître. Et bizarrement, à chaque fois que j'achète des livres, j'ai l'impression de presque de construire une muraille contre cette chute. Et je me dis toujours, le jour où je chuterai, il me restera ces livres. Et c'est pour ça aussi que j'ai une forme de propension folle à acheter les livres. J'ai besoin de les posséder. Je vais malheureusement, par exemple, alors que c'est encore une fois des espaces qui ont été importants dans ma vie, je vais jamais à la bibliothèque.
Allez en librairie.
J'ai besoin d'aller en librairie, j'ai besoin d'acheter les livres, j'ai besoin de les posséder. Et en plus, ces livres, dans la manière dont ils sont rangés les uns à côté des autres chez moi, ils finissent vraiment par ressembler à un mur, c'est-à-dire mes murs sont recouverts de livres. Et je me dis, voilà, le jour où tout sera fini et le jour où je chuterai, ils seront quand même là pour moi. Et peut-être que c'est absurde, mais encore aujourd'hui, je suis allé à la librairie il y a 2 jours, j'ai acheté des livres, je peux pas ne pas le penser comme ça. Je me dis, c'est ma petite muraille.
On va maintenant parler de votre livre. Il s'appelle Monique s'évade, il a paru aux éditions du Seuil. On va le faire juste après cette chanson emblématique de Jacques Higelin. Elle est sortie en 1978 sur son album qui s'appelle No Man's Land. C'est une chanson de départ, d'évasion peut-être, en tout cas de mouvement. Et c'est votre dernier livre, Édouard Louis, que nous mettons au programme du Book Club de France Culture cet après-midi. Un livre d'action, un livre concret. Téléphoner, partir, prendre une voiture, faire des courses, récupérer des meubles et des papiers, déménager, monter un escalier, monter sur scène, souffler pour la vie nouvelle. Dans une première version de ce texte, vous vouliez inscrire dans les marges du récit de votre mère fuyant un compagnon violent les sommes d'argent nécessaires à cette évasion. Pour imprimer le coût de la vie, celui de la liberté, écrire un livre comme une facture. Et puis les sommes ont disparu au profit d'une joie presque enfantine, de raconter la transformation d'une femme dont la vie nouvelle est une revanche, une victoire. Monique s'évade a paru aux éditions du Seuil, c'est votre nouveau livre, on en parle avec vous. Je commence par ce mot « action » parce que c'est un livre qui va vite, c'est un livre où on peut suivre, comme on le fait aujourd'hui, des véhicules sur un écran de téléphone portable, c'est un livre où on peut commander à manger depuis Athènes pour que ce soit livré à Paris. C'est un livre où il faut prendre des décisions, il faut donner des réponses. Et ça me fait penser un petit peu à tout ce que vous avez dit dans ce questionnaire lecture. Très beau, Édouard Louis, en introduction de cette émission. L'idée que les livres peuvent avoir une action sur le réel. Est-ce que vous y croyez? Et pour ce qui est du destin de votre mère que vous racontez ici et dans un autre livre, quels détails on pourrait donner sur l'action de la littérature sur l'existence?
Je pense que dans l'évasion, la narration crée quelque chose justement de très puissant, que raconter une évasion, c'est permettre d'autres évasions. Et c'est un débat aujourd'hui qui est très présent sur notamment les transfuges de classe, sur les personnes qui échappent à leur classe sociale et qu'ils racontent en littérature, en sociologie, en philosophie. On reproche à ces gens, vous êtes partis mais vous n'avez pas transformé le monde. D'abord comme si quelqu'un pouvait transformer le monde par une simple décision individuelle, c'est extrêmement naïf. Mais il y a quelque chose d'encore plus problématique dans cette manière de problématiser la question des transfuges et de la fuite, c'est oublier à quel point raconter la fuite a une matérialité. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui fuiraient pas si on leur avait pas raconté des histoires de fuite.
Comme si ne pas lire que ça existait, c'est ne même pas pouvoir envisager que c'est possible.
Exactement. Avant de savoir si la fuite est possible ou impossible, il faut savoir si la fuite est pensable ou impensable. Et moi, je le sais parce que j'aurais jamais pu fuir sans les récits de fuite. Mon premier récit de fuite dans mon parcours de lecteur, c'était juste La fin du monde de Jean-Luc Lagarce, qui raconte l'histoire de Louis, qui est devenu mon nom de famille, qui est un garçon qui va fuir sa famille pour devenir quelqu'un d'autre, qui va partir dans la ville pour écrire, pour vivre sa vie gay, puis qui va revenir au moment de sa mort, mais qui va partir à un moment donné. Ça a été Le retour à Reims de Didier Ribon. Et ça a été des choses qui m'ont fait voir que fuir était possible. Et d'ailleurs, c'est à un niveau beaucoup plus large et encore une fois beaucoup plus grave. On sait que c'est quelque chose qui a été très important et qu'on lit chez Toni Morrison, par exemple, dans la fuite des esclaves des pays du Sud, esclavagistes des États-Unis au moment de l'esclavage, où la question de la narration était extrêmement puissante. De savoir, quand on était esclave sur une plantation, que d'autres esclaves s'étaient enfuis, avaient pu tenter de s'enfuir, même si c'était difficile, même si souvent ils étaient rattrapés, si souvent ils étaient tués. Si vous voulez, la narration, elle est aussi une cause. Elle fait partie du monde, elle fait partie du corps.
C'est pour ça qu'on les empêchait, ces esclaves, de se raconter ces histoires-là, précisément parce qu'on savait que ça sème quelque chose dans le corps et dans l'esprit des humains.
Exactement, exactement. Et c'est comme ça que commence la préface de Toni Morrison aux œuvres complètes de Primo Levi. Toni Morrison prend cette phrase de Primo Levi quand un nazi vient dire à Primo Levi « Vous ne pourrez pas raconter votre histoire. Ce qu'on va faire avant toute chose, c'est vous empêcher toute forme de possibilité de raconter votre histoire. » Et en effet, il y a dans le fait de raconter une histoire quelque chose qui ressemble à une fuite, qui fait fuir et qui se met à faire partie de la chair. C'est-à-dire que la narration, elle efface la frontière entre la parole et le corps, parce que la narration, tout à coup, elle donne le mouvement à un corps.
Oui, mais c'est aussi, si on vous lit et si on vous écoute, Édouard Louis, l'idée que la narration, elle vient presque, pas se substituer, mais à égalité avec l'acte de la fuite et avec tous les autres actes. Et j'insiste sur ce mot action parce que vous écrivez aussi ce texte, et là pour parler de la langue, comme un texte qui avance, comme un texte où les choses, elles doivent, comme vous dites, les décisions, on les prend dans les moments où il faut les prendre, quoi. Elles sont juste parce que les circonstances sont très difficiles. Et le fait de tendre votre écriture à ce point-là, j'ai l'impression que vous nous dites à quel point écrire, c'est agir pour vous, quoi, dans ce texte-là.
Oui, exactement. Et puis, comme je l'ai souvent dit, moi, je pense que chaque corps, chaque histoire, chaque expérience mérite sa propre forme littéraire, une vraie recherche formelle pour chaque texte qui soit complètement différente de toutes les autres recherches, pour toutes les autres histoires qu'on a racontées. Et quand j'ai écrit Monique s'évade, ça a été extrêmement difficile parce que j'ai cherché un rythme dans l'écriture du livre qui fait que cette forme littéraire, elle reflèterait l'histoire de la fuite de ma mère. Ma mère, je raconte dans Monique s'évade, elle prend son sac, elle prend son chien, elle s'enfuit de chez un homme avec qui elle vit depuis plusieurs années, qui la maltraite, elle va courir dans la rue. Moi, je suis à Athènes en résidence d'écriture, je lui commande un taxi à distance parce que ma mère a la jambe abîmée, elle peut pas s'enfuir très facilement. Et c'est une forme de récit à bout de souffle, comme chez Jean-Luc Godard, ça n'arrête jamais. Et je voulais, par la forme littéraire, rendre justice à l'histoire que je racontais. Exactement comme quand j'ai écrit Qui a tué mon père, dans lequel je racontais les effets dévastateurs de la politique, de la violence politique des gouvernements sur les pauvres, j'ai cherché une forme proche du pamphlet. J'ai relu Zola, j'ai relu J'accuse, j'ai relu les textes de Marguerite Duras dans La douleur où elle attaque De Gaulle. Exactement comme quand j'ai écrit En finir avec Eddie Bellegueule, dans lequel je voulais presque confesser mon enfance, j'ai lu des textes de confession, j'ai lu Jean-Jacques Rousseau, j'ai lu André Gide. Et pour Monique Sévade, j'ai lu des récits d'évasion, j'ai lu Steinbeck, Des souris et des hommes, qui est l'histoire de deux hommes qui essaient de s'en sortir à l'intérieur, comme ça, de leur existence pourrie, brisée, difficile. J'ai lu le grand texte de Patrick Chamoiseau, le vieil homme esclave et le molosse, où un esclave s'enfuit, comme ça, d'une plantation esclavagiste, court à travers la forêt, court à travers les bois, avec un molosse à sa poursuite. Et à chaque texte, je change de forme littéraire, je change de manière d'écrire, parce qu'on ne peut pas raconter toute chose avec la même voix, avec le même ton. Et c'est parfois ma querelle avec la littérature, c'est parfois ma querelle avec les formes romanesques qui ont tendance à être reproduites de manière systématique. C'est pour ça que je trouve tant de livres tellement décevants, c'est qu'on rentre en librairie, on ouvre et on a l'impression d'être reconfronté à une forme qu'on connaît par cœur. L'introduction, le développement du personnage, Solène avait vu son cousin la semaine dernière, point, dialogue, développement, chapitre de 60 pages, deuxième chapitre. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas tout raconter en reprenant plus ou moins une forme qui ressemblerait, je sais pas, à Zola ou à Woolf, un petit peu modernisé. Mais on doit retrouver une nouvelle voix à chaque écrit. Et pour Monique, il fallait que ce soit un texte qui court. Et
j'ai trouvé... c'est un texte qui court et c'est un texte qui rompt. Puisque cette femme a le courage de partir de à la fois cet endroit, mais aussi de cette relation. C'est vraiment un texte de rupture. Et par la même occasion, c'est un texte au bout du fil. C'est-à-dire que c'est aussi un fils et sa mère qui ont retrouvé un autre cordon que le cordon ombilical. Ils sont reliés à la seconde, tout le temps, par le téléphone, par Internet, etc. Comme s'il y avait deux mouvements presque contraires. Un texte de profond éloignement, de rupture radicale, et un texte de liaison quasi organique, quoi.
Oui, et organique et technologique.
Et technologique, mais parfois la technologie d'aujourd'hui touche à l'organique, presque.
Oui, c'est vrai, une forme de
c'est un instantané étonnant, quand même. On caresse son téléphone et on peut suivre le mouvement de sa mère dans une ville à l'étranger.
Oui, on l'appelle en vidéo, c'est ce que je raconte dans Monique Sévade. Je suis à Athènes, ma mère m'appelle en pleine nuit, elle me dit « faut que je fuite chez cet homme qui me maltraite ». Donc je lui dis « oui, pars tout de suite ». Et donc je lui commande le taxi, elle arrive chez moi, je l'appelle en vidéo pour savoir si elle va bien. Je lui commande à manger parce qu'elle est épuisée, elle a le corps épuisé d'une femme qui a été maltraitée, qui a été insultée, qui a vécu la violence. Je lui dis « tu dois te reposer, je veux même pas que tu cuisines, je veux même pas que tu fasses le moindre geste qui pourrait te fatiguer ». Et tout est organisé à distance. Et au fond, j'ai trouvé dans la technologie un dialogue possible avec ma mère qui serait peut-être pas possible dans la réalité plus immédiate, parce que ma mère et moi, on a deux corps différents, on a deux corps de classe différents, on a deux histoires différentes, et parfois quand je suis face à elle, c'est difficile parce que on ne se ressemble plus totalement, en dépit de la tendresse qui a pu renaître entre nous. Et au fond, dans la technologie, il y a une forme de relation possible.
Proche et distant, quoi.
Exactement, comme Proust, le narrateur, raconte sa relation au téléphone avec Albertine. On oublie à quel point La recherche du temps perdu, c'est un roman qui tout à coup va se passer par téléphone, puisque la trajectoire de la recherche montre l'avènement du téléphone. Et tout à coup, le narrateur de Proust, qui est fou d'Albertine, on le sait, va avoir une relation avec elle au téléphone. Et à quel point cet outil-là, il va permettre quelque chose de, oui, quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, en littérature, qu'est-ce que c'est que d'écrire un dialogue à distance, par exemple? C'est intéressant aussi formellement, ça permet de nouvelles formes d'écriture. Moi, je raconte des échanges de SMS avec ma mère, des échanges sur WhatsApp, des vidéos sur FaceTime. Et il y a aussi, je pense, là, la matière d'un nouveau ton en littérature, d'un nouveau rythme en littérature.
Vous citez Hélène Cixous en exergue de votre livre, vous citez un extrait de son livre Ève s'évade. On va écouter une archive qui date de 2009, elle est au micro d'Alain Weinstein dans l'émission Du jour au lendemain, et Alain Weinstein relève la phrase de Cixous qui est « Plus j'écris, plus j'aime aimer maman ».
Évidemment, c'est une formule qui dit aussi la démultiplication. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement aimer, c'est aimer, aimer, c'est travailler sur tous les plis de cette relation, parce qu'elle m'apprend énormément. J'ai l'impression d'être à l'école d'une terre, d'un ciel, d'un ensemble stellaire qui me dépasse, qui m'enchante et qui me terrorise. Parce qu'évidemment, il est en imminence. À tout moment, il risque de disparaître. Il apparaît et il disparaît. C'est comme si, vous voulez, c'est comme si je voyais apparaître une lune que je n'avais jamais vue et qui va disparaître, et puis une autre. Voilà. Et moi, j'appelle ça la vie nouvelle. Alors, ça a l'air paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment la vie nouvelle. Celle-là, elle est peu connue. L'écriture se fait à ça. Il se fait une écriture à la lumière de cette autre époque, de cet autre jour. Je dis lumière, mais je pourrais dire aussi que c'est une ombre. Mais non, c'est plutôt radieux. Et ça, c'est la grande surprise. C'est-à-dire que moi, souvent, j'ai le cœur ombrageux et inquiet. Mais ce qui vient de la planète que j'observe est plutôt lumineux et étrangement éclairé de l'intérieur.
La voix d'Hélène Cixous dans une archive dense, vous la citez, Édouard Louis, en exergue de votre livre, et vous citez « C'est donc la nouvelle vie que je vois ». C'est un extrait de son livre « Ève s'évade ». Elle dit dans cette archive écrire sur tous les plis, sur tous les replis de cette relation, une relation qui l'enseigne aujourd'hui. Voilà, elle a l'âge qu'elle a au moment où elle le dit, c'est-à-dire qu'elle a déjà une vie à elle, et Hélène Cixous. Elle parle d'une lune qu'elle regarde, qui l'éclairerait de nouveau, qui aurait l'étrangeté d'être éclairée de l'intérieur. Bref, ce qui nous pousse, un, à vous interroger sur le choix de cet exergue. Donc, quel sillon vous vous mettez en citant Hélène Cixous. Et puis aussi l'idée de « plus j'écris, plus j'aime aimer maman », qui est une phrase à la fois d'une grande adulte et d'une grande enfant.
Oui, c'est absolument sublime. Et Hélène Cixous est une des écrivaines qui m'a le plus marqué. Je pense que son livre « Gare d'Osnabrück à Jérusalem » est sans doute un des grands chefs-d'œuvre du XXIe siècle. Et Hélène Cixous, justement, elle est de livre en livre dans « Gare d'Osnabrück à Jérusalem », dans « F.C. Vade », dans « Homère est morte
ouais, ». Ouais.
Elle est revenue sur sa mère à très nombreuses reprises, et elle a essayé, comme elle le dit, dans des plis de comprendre quelque chose qu'elle n'avait pas saisi avant. Et c'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage à Hélène Cixous en appelant mon livre « Monique Sévade », en référence à F. Sévade, dans cette espèce de recherche de la connaissance par l'écriture que le corps n'a pas su avoir. Mon corps n'a pas su comprendre ma mère. Mon corps n'a pas su voir ma mère au moment où j'ai cohabité avec elle dans mon enfance. J'ai pas vu que c'était une femme qui souffrait. J'ai pas vu que c'était une femme qui était enfermée. J'ai pas vu que c'était une femme qui était réduite par l'ordre masculin, par mon père, par la famille, à faire le ménage, à faire la cuisine, à se taire, à pas travailler. Et au fond, pour moi, écrire, c'est dans une sorte de geste parallèle à celui d'Hélène Cixous, c'est presque apprendre à pleurer, apprendre à... J'écris pour apprendre à pleurer, pour verser les larmes que j'ai pas versées au moment où j'aurais dû le faire.
Apprendre à voir aussi, parce qu'il y a ce motif-là, dès le départ, quand vous citez Hélène Cixous, c'est la vie nouvelle que je vois, et au milieu de votre livre, vous demandez aussi combien de temps il faut pour voir son enfance, pour faire le point sur son enfance. Mais est-ce que vous pensez que c'est le temps? Ou que c'est vraiment l'écriture et la possibilité de penser que vous offre l'écriture, Édouard Louis, qui vous permet de voir votre mère telle que vous ne pouviez pas la voir dans l'enfance?
Sans doute les deux. C'est le temps et l'écriture fusionnent et produisent la possibilité de voir quelque chose, de comprendre quelque chose et presque, je dirais, d'aller creuser la douleur. On parle toujours de la littérature comme un espace dans lequel on pourrait faire œuvre de catharsis, s'éloigner, se,
Réparer, consoler.
Moi, c'est le contraire. Je souffrirais beaucoup moins si j'écrivais pas. Parce qu'au moment où je vais écrire, je vais aller justement creuser une douleur là où je l'avais pas vue, là où je l'avais pas sentie, là où je l'avais pas perçue. Et c'est pour ça que je pense que les larmes sont un principe de lucidité. On se met à voir des choses à travers les larmes. Vous voyez, si vous mettez une larme devant une source de lumière, elle va produire une sorte d'éclatement de la lumière, la diffuser d'une manière très particulière. Et on voit la lumière comme on la voyait pas. Quand la lumière traverse l'eau, on voit quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est ce que je fais quand j'écris sur ma mère et sur son passé. C'est-à-dire que, en versant ses larmes sur une histoire que j'avais pas compris. Enfin, je l'avais raconté dans Combat et métamorphose d'une femme. J'étais dans mon enfance extrêmement dur avec ma mère. J'étais extrêmement violent avec elle. Je l'avais vue toute mon enfance être une femme qui avait pas droit au bonheur. Et comme tous les enfants, comme la plupart des enfants, comme presque tous les enfants, je voulais que le monde soit comme on me l'avait appris. Vous voyez, les enfants sont, je l'ai déjà dit, les enfants sont fascistes, les enfants sont horribles. Enfin, ils vont à l'école, vous avez un petit garçon qui arrive avec un cartable Barbie à 5 ou 6 ans, il est déjà massacré par les autres. Il est massacré, il est tué, il est mis de côté. Et en fait, les enfants, on leur apprend le monde... Et ils veulent pas que ce monde change. Et dans Combat et métamorphose, une femme, j'avais raconté cette scène où un jour, ma mère a bu un petit peu. Elle buvait très peu parce qu'on apprenait à une femme qu'elle devait pas boire. Ma mère a mis de la musique qu'elle préférait, une musique qui s'appelle The Wind of Change de Scorpion. Et elle s'est mise à dire, oh, c'est la chanson de mon enfance, de mon adolescence. Quand je l'entends, je suis heureuse. Et moi, j'avais 11 ou 12 ans. Et quand j'ai vu ce bonheur sur le visage de ma mère, j'ai été scandalisée. Je suis rentré dans le salon, je lui ai dit « Arrête d'être heureuse, ne fais pas ça, tu es ridicule. » Parce que j'avais intériorisé, comme tous les enfants, le monde, et je voulais que ma mère reste à sa place. Et combien d'années il m'a fallu pour voir tout ça, sans doute trop. Et sans doute, écrire, c'est aussi, je disais tout à l'heure, écrire, c'est apprendre à pleurer, mais aussi, c'est pour moi, c'est écrire, c'est dire pardon. Voilà. Moi, j'écris aussi pour dire pardon, pardon de ce que j'ai pas vu.
C'est étonnant parce que vous convoquez l'image de l'enfant Édouard Louis qui n'accepte pas que sa mère soit heureuse dans le salon parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et moi, j'ai refermé votre livre en voyant beaucoup, alors que vous vous, évidemment, dépeignez comme l'adulte que vous êtes, comme l'homme accompli aussi que vous êtes, comme l'écrivain que vous êtes, avec le destin international que vous a procuré votre texte, de traduction, de mise en scène, etc. Et pourtant, j'y ai trouvé dans ce livre-là, Monique Sévade, une parole, une puissance, un regard d'enfant. C'est-à-dire que c'est comme si c'était l'image négative au sens de la photographie, l'inverse de ce que vous racontez dans le salon d'enfance où vous interdisez à votre mère de danser et d'être heureuse. C'est comme si c'était un enfant qui applaudissait et qui disait « danse maman, je veux que tu le sois », mais aussi d'une position d'enfant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui, j'ai aussi une sorte de fascination presque enfantine par rapport à, ouais. À la personnalité notamment de ma mère et à sa capacité à être heureuse sans trace, sans trace, sans passé, sans des marques qu'elle tiendrait avec elle. Je le dis un moment dans Monique Sévade, je lui dis « Je suis désolée de ce que tu as vécu, de ces hommes qui t'ont traité de cette façon. » Et ma mère me dit « Ah mais non, mais c'est terminé, donc maintenant je m'en fiche, je vais pas pleurnicher. » Et comment cette femme fait pour avoir cette force de vie, cette force de d'avancer, de jamais traîner le passé derrière elle? Moi, j'en suis incapable. C'est une autre phrase qu'elle me dit dans Monique Sévade. Elle me dit, comme d'habitude, moi je ris et comme d'habitude, toi tu pleures. Elle se moque de moi. Et elle est comme la mère d'Hélène Cixous à cet égard-là. J'ai eu la chance de beaucoup échanger avec Hélène Cixous sur sa mère, en tête à tête. Et puis Hélène Cixous me raconte toujours ça. Elle me dit, ma mère me disait, mais pourquoi tu vas creuser dans l'histoire familiale? Pourquoi tu vas creuser dans les horreurs que la famille a vécues, dans ce passé douloureux, dans ce passé violent, alors que moi, je l'ai vécu et je vis. Et y a quelque chose de, peut-être, oui, d'enfantin dans la manière d'observer de façon un peu ébahie tout ça, et presque de prendre ma mère comme un sujet politique à part, au fond. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Monique? Elle est presque un manifeste pour survivre face à la violence. Comment fait cette femme? Quel est son secret pour ne jamais souffrir de la violence vécue? Peut-être qu'il faudrait l'étudier. Mon livre, c'est presque
une invitation
à étudier cette femme comme on étudierait un corps dans un laboratoire. D'où vient cette capacité à ne pas souffrir de la violence vécue? Moi, ça me fascine.
On va écouter la voix de Flora, l'auditrice du Book Club, qui a lu votre livre, Édouard Louis, et vous adresse des questions.
Bonjour le Book Club, bonjour Édouard Louis. Édouard, je vous remercie pour ce livre, Monique Sévade, qui m'a touchée par la tendresse infinie qu'il dégage. C'est beau de voir la relation qui se crée entre vous, une amitié mère-fils, une véritable complicité. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que vous, l'auteur et narrateur de ce récit, vous vous effacez derrière votre mère. C'est elle qui prend toute la lumière, et vous la regardez et la décrivez avec admiration. Et nous, les lectrices et lecteurs, on la regarde avec vos yeux. Monique, c'est une héroïne, une battante. Votre récit montre la volonté farouche d'une femme de s'émanciper de la domination masculine, cette émancipation passant pour elle par la fuite, la solitude et l'autonomie. Votre mère, par la force des choses, a agi en féministe. Alors, est-ce que vous pensez avoir écrit un livre féministe? Merci pour votre réponse et pour faire référence à un très beau moment de votre livre, Standing Ovation, pour Monique.
Merci beaucoup Flora pour votre lecture et pour cette question. Est-ce que vous avez écrit un livre féministe, Édouard Louis?
Oui, d'une certaine manière, oui, puisque c'est justement l'histoire d'une femme qui se retrouve enserrée par la domination masculine et qui va essayer de se battre, de s'en défaire, de se transformer. Et c'est aussi justement mon livre une discussion avec le féminisme contemporain. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces femmes des classes populaires qui n'ont pas de capital culturel, qui n'ont pas de capital économique, qui n'ont pas d'argent pour s'enfuir, qui sont celles qui sont le plus exposées à la domination masculine, non pas parce qu'il y aurait plus de domination masculine dans un monde que dans un autre, ça sans doute pas, mais parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'enfuir quand elles le rencontrent. Ma mère, c'est ce qu'elle dit à un moment quand elle parle de la relation avec mon père, je voulais partir mais pour aller où? Et au fond, aujourd'hui, alors qu'il existe beaucoup de discours sur la question des femmes, j'ai l'impression que les femmes des classes populaires restent totalement invisibles du discours féministe contemporain, qu'elles sont pas représentées, quelles sont j'ai voulu poser cette question de qui on parle au moment où on parle de la question des femmes. C'est la très belle idée d'intersectionnalité de Kimberlé Crenshaw. Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup d'intersectionnalité en disant l'intersectionnalité, c'est parler à la fois des classes, des femmes, de la sexualité. En fait, c'est pas du tout ça ce que dit Kimberlé Crenshaw. Elle dit quelque chose de beaucoup plus intéressant. Elle dit: à chaque fois qu'un mouvement politique émerge, c'est toujours la fraction dominante des dominés qui aura la parole. Donc quand il y aura un mouvement noir, c'est les hommes noirs hétérosexuels qui parleront et qu'on écoutera. Quand le mouvement gay émerge, c'est les hommes gays blancs des villes qu'on écoutera. Quand il y a un mouvement féministe qui émerge, c'est les femmes privilégiées de la bourgeoisie qui parleront. Et c'est ça que ça veut dire l'intersectionnalité. Ça veut dire de qui on parle quand on parle d'une catégorie. Est-ce qu'au fond, on prend pas le risque de parler seulement de la fraction dominante des dominés? Et c'est aussi cette question qu'essaie de poser Monique Sévade. Qu'est-ce que serait un féminisme qui donnerait plus de place aux femmes des classes populaires, qui aujourd'hui me semblent, alors il y a plein de gens qui essayent quand même d'en parler, mais par rapport à la totalité des discours, qui me semblent
trop minoritaires.
Ouais, scandaleusement invisibles.
Votre livre articule cette question-là avec votre position sociale aujourd'hui, puisque vous parlez des moyens, on est très vite confronté à l'idée du coût de la fuite de votre mère. Un coût psychique, évidemment, un coût physique, évidemment, mais aussi un coût financier très pragmatique. Ce coût-là, vous le rattachez à la manière dont vous avez gagné votre vie jusqu'à maintenant en écrivant des livres. Et ces livres, pour une part, décrivent la violence de votre enfance, décrivent la position de votre mère dans votre enfance, la position de votre père dans cette enfance, etc., etc. Et vous racontez la relation très paradoxale qu'a eue pendant tout un temps votre mère avec ces livres-là, livres qui lui permettent, si on suit votre équation quasiment posée mathématiquement, qui lui permettent aujourd'hui de s'enfuir.
Oui.
C'est une des tensions de ce texte-là. C'est-à-dire que on entendait Flora dire que vous vous effacez. À mon sens, vous ne vous effacez pas du tout. Vous êtes là comme étant un des acteurs financiers de la fuite de Monique.
Oui, en fait, Monique Sévat, c'est un livre qui est animé par une critique, j'espère, profonde ou en tout cas violente de l'idée de la propriété, puisque au moment où ma mère s'évade de chez cet homme, il faut de l'argent, voilà. Il faut de l'argent pour lui payer un loyer, lui payer une caution, qu'elle puisse manger, parce qu'elle était réduite à la dépendance par cet homme qui lui avait dit « viens vivre avec moi, je m'occuperai de toi », et qui en fait l'a privée de la possibilité de manger. Quand elle prenait de la nourriture dans le réfrigérateur, lui disait « arrête de te servir, c'est moi qui paye ». Donc ça, encore une fois, où est aujourd'hui le féminisme qui parle des femmes qui peuvent pas manger ? C'est une vraie question, qui se font hurler dessus si elles mangent, c'est quand même très grave. Et il a fallu... avoir de l'argent, qui est une rupture aussi par rapport à l'idée bourgeoise de la liberté, qui consisterait à dire il faut être libre, on choisit d'être libre, c'est un état d'esprit. Non, c'est des conditions matérielles qui rendent ça possible ou impossible. Et j'ai pu aider ma mère parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai écrit des livres, parce que j'ai fait des études. Et cet argent-là, je l'ai parce que j'ai vécu une enfance difficile, à l'intérieur de laquelle j'ai vécu de la violence, qui m'a donné envie de la raconter, à laquelle ma mère a participé elle-même. Est-ce que si ma mère m'avait plus aimé dans mon enfant, j'aurais écrit, je sais pas, je pense pas, j'en suis pas certain. Et donc, il y a une forme de circulation qui fait que parce que j'ai vécu une enfance difficile avec ma mère, j'ai écrit, et parce que j'ai écrit, je peux aider ma mère. Et donc, c'est pas un livre où j'assiste ma mère. Parce que si je disais j'assiste, ça voudrait dire que ce que je donne m'appartient. Alors que ce que je donne ne m'appartient pas. Ça lui appartient à elle. Ça appartient au monde qui a précédé. Et il y a une forme de, encore une fois, de critique de la propriété qui passe par une forme de fluidité, de circulation.
Oui, mais presque de circularité. C'est-à-dire qu'à vous écouter poser les choses comme ça, Édouard Louis, j'ai l'impression que la fuite ou l'évasion de Monique est prise dans le cercle de la violence. C'est parce qu'il y a une violence originelle qu'elle a aujourd'hui les moyens de s'évader. C'est terrible, d'une certaine manière, on n'en sort pas complètement. Si elle, à l'échelle tout à fait individuelle de sa vie, mais sinon le cercle n'est pas rompu parce que vous revenez à la violence originelle.
Oui, c'est-à-dire que paradoxalement, la violence est ce qui produit aussi l'émancipation. Oui. Je le dis à un moment du livre, et comment on fait avec ça. Et je l'ai aussi beaucoup raconté. En racontant l'histoire de ma mère, je voulais pas raconter l'histoire d'une femme forte ou exceptionnelle, comme si elle était exceptionnelle et que d'autres femmes l'étaient pas. Je pouvais pas faire comme si les autres, si elles s'étaient pas évadées, c'était de leur faute, elles en étaient responsables. Ma mère, elle s'est évadée parce qu'elle avait subi une situation de violence extrême qui l'a poussée à sortir. C'est ce que dans Combat et métamorphose d'une femme, j'avais appelé le paradoxe de la domination. C'est précisément parce qu'elle a emmagasiné beaucoup de violence qu'à un moment donné, elle a voulu venir récupérer ces choses qu'on lui avait volées. Mon père, comme homme, toute la violence qu'il vivait, il le vivait avec l'illusion du choix, de l'élection. Je suis un homme et donc je fais des choses violentes et je m'abîme le corps. Je suis un homme et donc je bois de l'alcool. Et au fond, tout ce qui l'a détruit, il a toujours pensé qu'il l'avait choisi. Alors que ma mère, comme femme, elle a jamais eu le privilège de penser qu'elle avait choisi. C'était les hommes qui lui disaient « tu restes à la maison, tu fais le ménage, tu te tais ». Et ce qui fait qu'à un moment donné, elle a pu dire « je vais reprendre ce qu'on m'a donné, ce qu'on m'a volé, pardon. Je vais me donner ce qu'on m'a volé ». Et on voit qu'il y a une forme de mouvement dialectique entre la violence et la libération et que l'opposition, elle n'est pas simple entre les deux.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et le Book Club continue tous les lundis à cette heure-ci. Nous avons rendez-vous avec Emmanuel Laurentin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Marie.
Vous lisez pour nous des livres en fonction de l'actualité. C'est une tribune sur la Nouvelle-Calédonie parue dans Le Monde hier et signée par l'écrivain Éric Vuillard qui vous a fait sortir de votre bibliothèque un court récit de lui qui s'appelle Congo, qui avait été publié en 2012.
Oui, c'est d'un autre type de violence dont nous allons parler, Marie. Éric Vuillard avance dans sa tribune du Monde qu'aucune société coloniale ne peut durer éternellement. Certes, mais comment cela commence-t-il ? Cette simple sentence d'Éric Vuillard m'a donné envie de revenir avec lui à un début, non pas celui de la colonisation du Caillou, la Nouvelle-Calédonie, mais à l'affaire du roi des Belges, le Congo, terre minière africaine d'une richesse incomparable. Or, l'écrivain qui a décrit si souvent avec beaucoup d'ironie les grandes messes diplomatiques a consacré cet ouvrage Congo au congrès de Berlin de 1884, le congrès dit de partage de l'Afrique, pendant lequel d'obscurs diplomates de l'Europe entière se réunirent à l'invitation de Bismarck pour réguler entre eux la colonisation en cours de l'Afrique. On n'avait jamais vu ça, dit Vuillard. On n'avait jamais vu tant d'États essayer de se mettre d'accord sur une mauvaise action. Car après la première mondialisation européenne du XVIe siècle et la mainmise sur les Amériques, les puissances européennes en avaient été chassées par les indépendances américaines. Alors, Alors, dit Vuillard, elles s'emmerdaient et organisèrent la plus grande chasse au trésor de tous les temps, chaque mercredi au palais Radziwill de Berlin. Éric Vuillard décrit comme une réunion de copropriété à l'échelle d'un continent. Mais que connaissent-ils les Courcelles, les Mallet, les Bush, les Kucerov, les Van der Hoeven, les Penafiel ou les Lambermont au Congo? Rien, il leur faut donc un expert.
Et qui sera l'expert, Emmanuel?
Stanley, bien sûr, l'explorateur né, journaliste pour le New York Herald, que son rédacteur en chef avait chargé de retrouver au cœur des ténèbres. David Livingstone, parti, lui, essayer de retrouver là-bas les sources du Nil en plein cœur de l'Afrique. Tous les participants de la conférence de Berlin ont lu Le continent mystérieux, dit justement Vuillard. Tous ont lu Médusé, le récit à cinq sens de ses exploits. Stanley leur parlera du Congo, des rapides, de la forêt, de la brousse, des nègres. Ils l'écouteront comme de bons petits, puis une fois raconter les grandes fougères, une fois pagayées sur le Congo et le Mopopo, il leur fera une estimation claire et succincte des profits qu'ils peuvent espérer d'un retour sur investissement. Tout le monde restera baba, dit Éric Vuillard. Stanley décrit aux 14 diplomates un paradis, certes, mais où commence et où s'arrête le paradis? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Il leur faut définir le bassin du Congo entre tous, donc 14 diplomates, d'autant que Stanley est employé du roi des Belges, Léopold II, qui, après avoir envisagé pour lui et pour son pays un empire asiatique, a jeté son dévolu sur le bassin du Congo. Brusquement, quittant Berlin pour rendre tangibles ses discours de papier sur ce morceau du monde qu'est le Congo, Vuillard nous fait suivre les pas de ceux qui le firent belge, le Congo. Charles Lemaire, l'homme des expéditions punitives, qui finit directeur de l'école coloniale belge d'Anvers, mais aussi Fievé et bien d'autres, de pauvres types, dit-il, désirant s'enrichir à tout prix. Fievé, qui fut une sorte de roi, un modèle, pour certains d'ailleurs, du Kurtz, de Au cœur des ténèbres, de Conrad. Fievé, le coupeur de main. Fievé qui imposait son ordre à coups de main droite découpée, puis exhibé dans un panier devant les Africains. Fievé le cruel, qu'Éric Vuillard imagine de retour à Bruxelles pour y finir sa longue vie, hanté par ses atrocités. Bien sûr, écrit Vuillard, on savait qu'il avait été au Congo, et dans son dos on prononçait des formules expiatoires. On le rejetait dans un paradis de tristesse. Cette tristesse parcourt toute l'œuvre de Vuillard, tristesse de la terre, tristesse des hommes, et l'autorise peut-être à prédire la fin d'un cycle dont il a si brillamment et si cruellement décrit les origines dans Congo. Donc c'est un récit publié chez Actes Sud.
Merci infiniment Emmanuel Laurentin. On peut réécouter Lecture d'actualité sur franceculture.fr. Vous parliez d'une scène si importante, Édouard Louis, qui convoquait la musique dans l'appartement d'enfance, dans la maison d'enfance. À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue au jeu des pages musicales. On propose à nos auditrices et auditeurs de chercher de la musique dans les livres. Aujourd'hui, notre auditrice s'appelle Lisa Di. Elle a envoyé un extrait de texte via le bookclub@radiofrance.com. On peut aussi envoyer une photo d'un paragraphe via le compte Instagram. C'est un extrait du livre Betty de Tiffany McDaniel, paru en 2020 aux éditions Gallmeister et traduit de l'anglais par François Happ. Raya était entrée à la maison depuis un mois. J'allais avoir 9 ans. Maman m'a crié de la rejoindre dans une chambre et elle m'a dit que pour cadeau d'anniversaire, j'aurais droit à une histoire qu'elle n'avait jamais racontée à personne. Elle était en train de danser, secouée de mouvements saccadés comme un serpent à sonnette dans une poêle à frire. Ses pieds, dans ses bas de nylon, glissant sur le parquet tandis que Thurston Harris chantait « Little Bitty Pretty » à la radio. Alors qu'elle levait les pieds, j'ai vu une photographie sous chaque talon. « Ma petite, ma mignonne, viens me parler », disait-elle. Et elle m'a attirée près d'elle en essayant de me faire bouger les bras comme les siens. « Je vais te raconter une histoire qui est arrivée il y a longtemps. Ma petite, ma mignonne, je t'ai observée grandir. » Elle avait mis une couche encore plus épaisse que d'habitude de mascara et il avait coulé avec ses larmes, formant de longues traînées noires qui m'ont fait penser à l'été précédent, quand les poteaux électriques avaient été arrachés par la tempête et que les fils, encore sous tension, se tortillaient sur le sol. Oh! Merci beaucoup Édouard-Louis.
Merci infiniment.
D'avoir été avec nous pour parler de votre livre Monique s'évade, paru aux éditions du Seuil cet après-midi dans le Book Club de France Culture. Au son, c'était Sébastien Royer, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser et préparer ces émissions. Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Jeanne Aléos, Maïly Salé, Alexandre Alaï-Begovitch et Didier Pinault. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi vous abonner via l'application Radio France au podcast de l'émission. Et puisque je citais le compte Instagram, n'hésitez pas à aller voir par là-bas. Très bel après-midi sur Culture.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Fille de l'Est, femme à l'Ouest est un recueil de textes d'autrices ayant grandi dans le bloc de l'Est.
Les questions du public touchaient presque exclusivement à nos origines, à ce que ça faisait de venir de l'Est et de vivre en France, et particulièrement d'être passée à l'Ouest dans les années qui ont suivi la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique.